Bonjour à toutes et tous, pluvieux, curieux et grognons furteuses. Après la presque pluie de ce matin, vous vous rafraîchissez le corps et l'esprit à l'écoute de la pétulante onde curieuse. Car oui, en effet, comme l'a dit Quentin Béjanin, c'est la première fois que tu m'appelles Sophie Lefebvre en direct. Quentin qui
c'est le début de la notoriété, Sophie.
Oui, c'est ça, à la réalisation aujourd'hui. Bonjour Quentin. Il est donc bien midi, pile ou 17h si vous écoutez la rediff, enfin 21 maintenant, midi 1 ou 17h01. Et on voit double aujourd'hui avec deux sujets et deux invités par téléphone autour de l'écrit et des écrans. Alors non, j'ai pas un temps de retard sur le festival de Montélimar de l'écrit à l'écran, qui a réuni, paraît-il, encore plus de monde que les années précédentes. Donc le festival de Montélimar. Non, on évoquera d'abord avec Marion Pasquier le 36e festival de cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux qui aura lieu du 18 au 22 octobre. Alors je ne sais pas si Marion est déjà là. Bonjour Marion.
Bonjour, oui, je suis là.
Et on évoquera ensuite avec Alain Sardaillon, qui est président des Cafés littéraires, le festival, donc les Cafés littéraires, qui commence aujourd'hui et se poursuit jusqu'à dimanche à Montélimar, Le Teil, Vivier, Pierre Latte, etc. Mais d'abord, quelques infos. On parle gouvernance et démocratie de proximité. On continue, on ne cesse d'ailleurs de s'interroger sur la démocratie vraiment participative. Alors, est-ce que c'est un sujet qui sera évoqué pendant le 68e congrès des maires qui se tient aujourd'hui au Vence ? Fréquence 7 y est d'ailleurs, et où quelques centaines d'édiles locaux sont attendus de toute la France. Alors je sais pas, ce sera l'occasion bien sûr pour eux de se rencontrer, d'échanger. Certains demanderont peut-être des tuyaux sur la manière de gérer un cinéma municipal, par exemple, au hasard. Il sera plutôt question de la gestion et de la prévention des crises. C'est la thématique retenue pour cette année, et on sait qu'en milieu rural, les territoires sont très très exposés. D'ailleurs, l'Ardèche a été retenue pour être un département pilote avec une quinzaine d'autres territoires. L'idée, c'est d'avoir un peu une boîte à outils pour dégainer rapidement en cas de crise. Voilà. Alors, il y a pas mal de choses à expérimenter, en effet, en matière de démocratie locale. Et le Dauphiné Libéré met en avant ce matin l'initiative de Jojac, qui fait participer les habitants pour élaborer le budget de la collectivité, comme c'est le cas d'ailleurs à Montpezat ou Bozon. Alors c'est une initiative intéressante pour que les habitants... Enfin, nous, on se frotte un peu plus aux prises de décision. Mais est-ce que, c'est une question, est-ce que ça reste pas un peu anecdotique ? C'est-à-dire, on consacre un budget, en l'occurrence 20 000 euros, et les habitants décident à quoi servent cet argent. Alors, c'est déjà ça, diront certains. On peut aller bien plus loin pour d'autres. Et justement, si ça vous intéresse et que vous voulez creuser le sujet, voir pourquoi pas proposer une forme démocratique vraiment participative, collective, commune. Alors, je ne sais plus vraiment quel est le mot à employer qui ne soit pas ni minoré ni dévoyé. Enfin bref, je vous rappelle ce rendez-vous demain à la crypte de la Gorse à 20h. Puisqu'il y a un retour sur l'expérience participative de Saillant avec la projection de Commune Commune, qui est un film documentaire de Dorine Brun et Sarah Jacquet, et qui sera suivi d'un débat avec Dorine Brun justement et Sabine Girard qui est une ancienne élue de Saillant. Voilà. Donc rendez-vous à la crypte de la Gorse demain vendredi à 20h. Et puis bien sûr, il y a d'autres manières de s'impliquer. Et peut-être à Saint-Pierre-de-Colombiers, t'as des news ?
Savante transition, merci. Ouais, on a des nouvelles ce matin à Saint-Pierre-de-Colombiers, donc un groupe d'activistes et de militants qui s'opposent depuis toujours au chantier de Basilique. Portés par la famille missionnaire Notre-Dame, qui sont accusés de sectarisme, qui sont épinglés par les rapports de la Miviludes et qui prévoient de construire une basilique de 5000 places, 3000 à 5000 places, dans le lit de la Bourge, la petite rivière qui coule donc à Saint-Pierre-de-Colombiers. Ce matin, face à la reprise du chantier et des travaux, donc un groupe de militants s'est enchaîné aux pelleteuses. Ça a limité l'action avions des forces de gendarmerie qui sont pointées sur place. Les discussions sont en cours avec la préfète. On rappelle que ce projet est contesté depuis sa création et qu'on dénonce sa dimension anti-écologique, anti-laïque. On se pose des questions aussi sur les financements d'un projet estimé à plus de 20 millions d'euros et qui met en danger la vallée de la Bourge et sa biodiversité.
Ouais, merci Quentin pour ce petit point. C'est vrai qu'il soulève énormément de questions depuis longtemps et d'ailleurs qui n'est pas non plus en odeur de sainteté au sein de la chrétienté, puisque de l'Église catholique qui ne reconnaît pas cette famille missionnaire. D'autres actus complètement autre chose. Il se passe des trucs sur les marchés. Alors l'été s'étire sa révérence doucement et les marchés d'automne et d'hiver arrivent. Aujourd'hui, mini marché à Darbre de 16h30 à 18h et puis tous les jeudis suivants avec des légumes frais cette semaine. Il y a plein de choses. Salade, carottes, poireaux, persil, courge, musquée, etc. Il y a du pain, des châtaignes fraîches et grillées. Enfin bref, allez faire un tour sur le marché de Darbre tout à l'heure ou là tout de suite si vous êtes à l'écoute à 17h. De fréquence 7. Autre petit marché, c'est le petit marché de Chambonas à 17h30 qui vous propose une scène ouverte, un espace d'expression culturelle libre. Donc vous venez avec vos instruments, vos textes, vos pinceaux, votre inspiration. Si vous faites du théâtre, si vous êtes jongleur, musicien, peintre, enfin bref, vous êtes toutes et tous bienvenus ce soir au marché de Chambonas à 17h30. C'est la démocratie participative artistique, ça s'appelle. Dans la même idée, je fais moi-même le bœuf du jeudi dès 20h au Moulinard à Aspergeoc. Donc tous les jeudis, rendez-vous à Aspergeoc avec vos instruments, votre voix, là aussi votre inspiration. Et puis en plus, des images, des affiches, du papier peint, puisque au Moulinard, il redécore l'entrée. Donc allez-y pour participer à la création d'une chaude ambiance à Moulinard. Complètement autre chose, enfin presque. Un nouveau petit rendez-vous à la passerelle, le bistrot culturel de la Blachère, vendredi. Il y avait longtemps. Et vendredi, donc, c'est place à la guitare avec Simon Chazalon, qui est un guitariste et qui proposera à la fois un répertoire plutôt classique, mais aussi folk song américaine. C'est toujours des chouettes moments à la passerelle. Donc vous connaissez le principe, c'est dès 19h, vous pouvez boire un coup. Et puis vous pouvez rester aussi pour manger à partir de 20h30. Sinon, allez, on prend deux autres petites actus pour préparer son week-end. Les artistes, les musiciens se bougent. On a parlé ici, lundi ou mardi, je ne sais plus, de ce qui va se passer au Rocacois en soutien aux sinistrés du séisme au Maroc, samedi à Aubenas. Et si vous êtes plutôt côté Rhône, il y aura un autre concert au Théâtre de Viviers, donc samedi toujours. C'est le 5e concert de Zik Rock Ardèche qui propose de reverser les dons à une asso. Alors d'abord pour la musique, ce sera pop rock des années 80-90 avec trois groupes locaux, les Rock Breakers, les Bastou Zamaï et le groupe Rockside. Et puis donc l'asso Zik Rock Ardèche ne fait aucun bénéfice. Toute la billetterie est reversée aux musiciens et cette année, ils aident comme association LSF en Ardèche, donc LSF c'est la langue des signes française, qui a pour mission d'améliorer l'accessibilité aux personnes sourdes dans le département. Lors du concert, la chanson Cendrillon du groupe Téléphone sera chansignée par Élodie et ça c'est une première au Théâtre de Viviers. Voilà.
Et qui sera malheureusement pas retransmise à la radio.
Qui ne sera pas... pourquoi pas ? C'est un concept à creuser, merci Quentin. Si les artistes pensent aux autres, on peut aussi avoir une pensée pour eux, puisque en ce moment se négocie l'intermittence du spectacle et qui est en mauvaise posture, puisque le MEDEF menace de réduire de 15% le budget pour cette, enfin, à partir de cette année. Donc 15%, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est 15% d'intermittents en moins ou est-ce que c'est 15% de revenus en moins pour les intermittents eux-mêmes? En tout cas, il y a des actions proposées par la CGT qui sont déjà en cours et il y a un rendez-vous là ce soir, puisque c'est la prochaine Assemblée Générale qui sera organisée donc, par la CGT Spectacle. La plus proche ici, bah, c'est un petit peu loin quand même, donc si vous êtes vraiment dans le sud du département, c'est à Alès, c'est au Cratère. Et sinon, le 13, c'est la manif nationale pour les salaires et l'emploi, et donc idem à 10h là devant la préfecture d'Alès, mais il doit y en avoir d'autres aussi.
Oui, je crois qu'il y a une réunion à Priva le matin et à 14h à l'Agora à Aubenas, il me semble.
Ouais.
À vérifier. On en reparle demain midi.
On en reparle demain midi. Merci, Quentin.
Moi, je vous propose de continuer en musique avant d'attaquer les deux sujets principaux de cette édition. Comme il fait gris, il fait doux, il fait un peu frais dans l'air, je vous propose de partir en douceur avec un morceau des Madagascar All Stars. Donc, c'est tout un groupe de musiciens des quatre coins de la Grande Île, réunis au studio Mars il y a quelques années de ça. Et là, c'est Mora Mora, donc c'est la lenteur, la tranquillité et une certaine dose de laisser couler.
Zara tanana tsma laftanie, zatunga mamang misiava kwanie. Avela kukurisa mura mura nifton, fizai tunga suyan mazmana on.
Anihta tsma laftanie, tunga ni taratas. Misha fatavanyo Avela kifandim ni hanfshin vul Tafatsanana fatsina siku vul
Avela kifandim ni hanfshin vul Tafatsanana fatsina siku vul Avela kifandim ni hanfshin vul Tafatsanana fatsina siku vul
Tunga suya nawe
Mahai mandam nanti Jai engi apande Tzimet tungati
Tafita suya nawe
Ni ulu nati Tzimatit fiti Jai engi apande Tzisu wazeti Malavtanie Ti ankavana zay mavangvange Avelo kifandimbe ni volana sintan Ti sen manambo la tafawon
Urumbeti malavtanie Misitari na makumi petakanie Avela pipandi bumura mura ni maraino Afaya ni repati mitaitaino
Avela kifandi bumura mura ni marai Zetunga suyanu wazu arabai Avela kifandi bumura mura ni marai Zetunga suyanu wazu arabai
Tafita suya nawe
Ni ulu nati tsimatit fiti Se anja pande, ti si wazeti
Tafita suya nawe,
Et voilà, c'était les Madagascar All Stars à l'instant sur les ondes de Fréquence 7 pour de la douceur, de la beauté. Et c'est le moment de retrouver Sophie en studio.
Oui, merci Quentin. Effectivement, on redescend en douceur pour parler avec vous, Marion Pasquier, de cette 36e édition du Festival de cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux sur les droits humains. Bonjour Marion, rebonjour.
Bonjour, re-oui.
Alors, ce festival, il y a une programmation très très riche avec des prix, une compétition, une nuit du cours, des films francophones, des films qui viennent du monde entier. Dites-nous quelques mots d'abord de cette édition, cette 36e édition.
Oui, alors la 36e édition, elle reste dans la continuité de ce qui se fait depuis longtemps à Saint-Paul. C'est-à-dire que nous proposons des films, ben, évidemment des films d'auteurs qui proposent un regard sur leur sujet, sur le monde et une forme de cinéma personnel et de recherche. On a donc tous les films sont reliés par la thématique des droits humains, ce qui n'empêche pas d'avoir des sujets très variés et des formes de films très variés. Donc ça c'est pour les grandes lignes. Après on a une compétition de longs métrages francophones. Donc un jury professionnel qui remet un prix. On a des longs métrages internationaux, des films du monde, de plein de pays différents, Mexique, Jordanie, Soudan, Iran, différents pays. Mm-hmm. Ça c'est pour les longs métrages, donc de francophones et internationaux. Ensuite, on a toujours une compétition de courts-métrages sur les courts-métrages du programme Droits humains. Et ça c'est une compétition qui est vue par des lycéens. Les lycéens du lycée Pierre Latte. C'est une séance qui nous tient très à cœur parce qu'elle est assez emblématique de notre ligne éditoriale. Voilà, donc elle est le jeudi 19 octobre à 14h au cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Et le jury jeune remet un prix. Donc c'est dans la continuité du travail qu'on fait auprès des scolaires. C'est très important d'aller toucher ce public-là, de la maternelle au lycée. On fait des séances pour les scolaires.
Mmh. Oui, c'est ça. Hein. C'est vraiment un travail de longue haleine aussi, dont on voit uniquement la partie émergée oui. Ici pendant ce moment. Et d'ailleurs, ces films, ces courts-métrages seront aussi visibles pendant les rencontres des cinémas d'Europe le mois prochain.
Oui, effectivement, il y a des bons. On fait effectivement, on a une carte blanche à Aubenas. Au mois de novembre, on fait un programme de courts-métrages. Ils sont effectivement essentiellement issus de notre programme droits humains, mais pas uniquement. C'est un programme de courts-métrages européens en lien avec notre thématique droits humains. Donc voilà, c'est un extrait de notre programme qui est programmé à Aubenas, effectivement. Mmh. Également à Villeurbanne, d'ailleurs, au festival du film court de Villeurbanne le 19 novembre.
Oui, donc il y a ces courts-métrages droits humains, il y a la nuit du cours aussi, avec un prix du public.
Oui, tout à fait, donc ça c'est la nuit du cours, c'est le vendredi 20 octobre à 20h30, dans la grande salle fontaine de Saint-Paul-Trois-Châteaux. C'est un événement qui se reconduit chaque année depuis très longtemps, qui est très suivi, donc c'est plus de 4 heures de courts-métrage, il y a un buffet à l'entracte, c'est très convivial, très joyeux, et donc le public vote pour son film préféré, et le prix c'est Orano qui l'attribue, c'est un prix de c'est de l'argent donné aux réalisateurs ou réalisatrices du film récompensé par le public. Mmh.
Comment on crée une programmation comme celle-là ? Vous l'avez un petit peu évoqué, mais j'aimerais bien y revenir. Vous parliez justement d'un critère, vous disiez tout à l'heure hors antenne, c'est vraiment des films de cinéma, des films avec un vrai regard, des films inventifs qui recherchent, où il y a une certaine recherche formelle. C'est vraiment ça qui vous guide avant même la thématique des droits humains ?
Oui, c'est un tout en fait, mais c'est vrai que alors les films, on les voit, on les repère beaucoup au Festival de Cannes pour des raisons évidentes et puis aussi de calendrier. On est plusieurs à programmer, bien sûr, il y a une commission pour les longs-métrages, une commission pour les courts-métrages. Pour les longs-métrages, on trouve beaucoup à Cannes, mais aussi ailleurs, parce qu'on essaie aussi toujours de proposer des films qui ne sont pas forcément à Cannes et qu'on trouve excellents. Et pareil pour les courts-métrages, on repère beaucoup au Festival de Clermont-Ferrand, mais on cherche toujours aussi d'autres sources de diffusion. Et donc effectivement, en commission, enfin nous, après avoir visionné, on s'attache beaucoup à la forme. Oui, c'est sûr qu'il faut que les films soient singuliers, qu'ils proposent quelque chose qui percute et qui soit personnel et qui qui soit voilà, vraiment du cinéma. Et donc les droits humains, c'est vrai que je disais que c'est très large parce qu'effectivement, c'est une thématique qui couvre des sujets très variés. Donc on fait attention aussi à proposer aux spectateurs des formes éclectiques, c'est-à-dire qu'il y a des documentaires, il y a des comédies, il y a des films de fiction, des thrillers, des films de gangsters, enfin je dis des, mais à chaque fois, mais je veux dire, on propose vraiment des films qui n'ont rien à voir aussi les uns avec les autres pour que tout type de public soit intéressé par nos programmes et content de voir les films.
Alors justement, pour essayer de se représenter un petit peu, parlons de quelques films. Le film d'ouverture, par exemple, Fille de son père.
Alors, La fille de son père, c'est donc mercredi prochain, 18 octobre à 21h. C'est effectivement le film d'ouverture. C'est un film de Erwan Leduc, un second long métrage qui était présenté au Festival de Cannes cette année. C'est un réalisateur qui a déjà fait un long métrage, Perdrix, qui est sorti il y a quelques années, qui était déjà très, très inventif et qui a été très, très bien accueilli. Et là, ce qui nous a, par exemple, dans ce film, ce qui nous a vraiment enthousiasmé, c'est la forme, l'inventivité du réalisateur. Son écriture est totalement unique, elle appartient qu'à lui. En fait, il propose un univers assez décalé, très, très, très spécial. Pas spécial, mais très, très personnel, je veux dire, sur une histoire. C'était un film avec Nahuel Pérez-Biscayat, qui avait eu le César pour le film 120 battements par minute, et Céleste Brunkel, qui est une jeune actrice qu'on voit de plus en plus. Elle était dans Fifi récemment, elle a joué aussi dans la série En thérapie, donc ça, je pense, ça permet aux gens d'avoir quelques repères. Et ces deux acteurs-là jouent un père et qui a élevé sa fille tout seul, et sa fille, maintenant, a 18 ans, elle s'apprête à partir de la maison, et voilà, c'est un film sur ce basculement. Et disons que le traitement, au-delà du sujet, vraiment, le traitement est très, très original. C'est un film joyeux, réjouissant et très inventif. Et c'est vraiment pour ça qu'on l'a sélectionné. Donc, le réalisateur sera là pour présenter, échanger avec le public mercredi prochain à 21h. Et c'est donc c'est une avant-première.
Ouais. Donc, c'est bien de rappeler d'abord, oui, qu'il y a énormément d'avant-premières. Et puis, surtout, qu'il y a des rencontres avec quasi la totalité des films francophones, donc que ce soit des réalisateurs, des scénaristes, des comédiens.
Oui, bien sûr, c'est très important de proposer les films en présence des gens qui les font. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Donc on en a effectivement beaucoup pour presque tous les films francophones, comme vous l'avez dit. Même pour des courts-métrages, là, dès ce dimanche, on a une jeune réalisatrice superbe qui s'appelle Valentine Cadic, qui vient c'est pas à Saint-Paul, je vais en parler du coup, je vais un peu dans le mauvais ordre, mais bon. À Valory, dans le village de Valory, il y a un programme de court-métrage et on accueille une réalisatrice. La séance est à 17h. Et voilà, pour donner aussi la parole aux réalisateurs de court-métrage, c'est tout à fait très, très important. Et je sais que le Festival de Saint-Paul, dans son historique, a accueilli des réalisateurs de court-métrage qui sont ensuite revenus pour leur long-métrage. Et ça, c'est aussi formidable de suivre le travail des gens, en fait, et des artistes qu'on aime.
De vraiment accompagner tout ce travail. On a parlé du film d'ouverture et de ce regard un petit peu drôle, éventuellement, en tout cas aiguisé. Un autre film, celui qu'on pourra voir le 21 octobre, donc pour la clôture.
J'ai soumis votre cas d'infertilité. Voilà.
Merci.
Et je pense qu'on a trouvé la solution.
Ah.
Vous devez retrouver toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu un rapport sexuel dans votre vie et vous devez accomplir à nouveau un acte sexuel avec toutes ces personnes. Voilà.
Voilà. Le syndrome des amours passés. Anne Siro et Raphaël Balboni qui avaient déjà fait Une vie démente.
Oui, voilà, c'était un second long métrage, donc fait par un tandem de réalisateurs qui ont fait beaucoup de courts-métrages et déjà un long métrage. Et ben, c'est un film qu'on passe donc pour la soirée de remise des prix samedi 21, en présence de la réalisatrice Anne Siro. Et là, vraiment, c'est vraiment une comédie, c'est belge. Et l'univers de ces deux réalisateurs est vraiment. On a adoré, c'est vraiment très drôle comme film, c'est très personnel, ça interroge des questions de couple très profonde, mais avec beaucoup d'humour et beaucoup d'intelligence. Une vie démente, c'est interroger la maladie d'Alzheimer d'une mère et les répercussions que ça avait sur le couple. Donc c'était un sujet très grave, mais qu'ils traitaient avec leur patte propre, en fait. Et c'est cette patte-là qu'on retrouve dans leur second long métrage. Donc c'est vraiment un film, pour le coup, très drôle et très fin, voilà, qu'on propose en soirée de le samedi 21.
Il y aura aussi des débats, on l'imagine en tout cas, parmi les rencontres. Notamment, il y a deux documentaires qui sont à l'affiche, La ferme des Bertrands de Gilles Perret, c'est ça ?
Oui. Alors déjà, quand il y a un invité, il y a toujours un débat après. Hein, c'est vraiment l'idée, il présente, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un temps d'échange libre et avec le public pour vraiment avoir le temps d'aller au bout des discussions. Et donc oui, nous avons, c'est vrai qu'il y a deux documentaires en particulier avec des débats qui s'annoncent vraiment superbes. Alors mercredi 18 à 18h, il y a La ferme des Bertrands. Donc Gilles Perret, un réalisateur de documentaires très identifié, il a fait une vingtaine de films, La sociale, Les jours heureux, Je veux du soleil. Et l'an dernier, il est venu présenter sa fiction Reprise en main. Et donc là, il revient pour un nouveau film, La ferme des Bertrands. C'est un documentaire sur la ferme de ses voisins qu'il a filmé sur trois générations. Et donc, il raconte l'évolution de cette ferme et il fait des portraits passionnants des gens qui y travaillent. Donc, il sera là pour le présenter, échanger avec le public, ainsi que la co-autrice Marion Richoux.
Donc, avis aux amateurs, effectivement, un débat qui s'annonce assez riche et intéressant, mercredi 18 à 18h. Et puis, un autre sur un tout autre sujet, mais passionnant lui aussi, État limite avec le psychiatre Jamal Abdelkader.
Oui, alors ça, c'est le lendemain, jeudi, à 21h. État limite, donc c'est une avant-première, La ferme des Bertrands aussi, par ailleurs. État limite, c'est un documentaire de Nicolas Peduzzi qui se passe dans un hôpital en France et qui suit le travail d'un psychiatre qui va de service en service. Et donc, on est immergé dans son quotidien. Et donc, évidemment, le film raconte beaucoup les difficultés qu'il y a à exercer correctement son travail à l'hôpital aujourd'hui. Et aussi tout ce que ce personnage, ce psychiatre, arrive à consacrer comme temps à ses patients, même si on lui intime quand même de faire vite et. Et donc, c'est un film qui raconte, qui fait un tableau des conditions de travail en milieu hospitalier et de ce psychiatre qui donc sera là pour débattre, pour échanger avec le public. Et donc, je pense que ça va être un moment assez formidable parce qu'il est vraiment très charismatique. Il a une vraie, en tout cas dans le film, il exprime vraiment, il montre sa vocation et sa vocation de médecin, de soignant et qui ne peut pas exercer dans des conditions correctes. Donc on est très content de l'accueillir.
À rencontrer donc jeudi. Merci beaucoup Marion Pasquier. Donc on le rappelle, c'est à partir du 18 et c'est jusqu'au 20.
Alors c'est 18-22 sur Saint-Paul. Et justement ce que j'évoquais un tout petit peu, c'est qu'on a 6 séances décentralisées dans des villages autour de Saint-Paul et à Montélimar. Donc dès demain en fait, ça commence à Saint-Restitut. Dans les hors les murs, c'est soit des programmes de courts-métrages, soit des longs, ça dépend des endroits. Demain à Saint-Restitut, samedi à Montélimar, dimanche Valory, lundi Grignan et mardi Roussas. Et donc, ce sont des films différents de ceux qui sont à Saint-Paul, qui ont évidemment c'est la même ligne éditoriale, mais ont choisi d'autres films pour prolonger l'expérience et surtout amener le cinéma dans d'autres endroits et créer comme ça des passerelles pour que les spectateurs peuvent voir dans différents endroits d'autres films.
Eh bien, allons voir. Alors, en avant-première, des avant-premières hors les murs dès demain et sinon voilà à rendez-vous à Saint-Paul 3
Château. Du 18 au 22 sur Saint-Paul. Voilà.
Du 18. Merci beaucoup Marion Pasquier.
Merci à vous.
Pour passer à l'autre sujet, quelques petites notes. Ah oui, Texas, I Don't Want a Lover, 1989, ça ne nous rajeunit pas. Alors, vous comprendrez pourquoi ce choix musical lorsqu'on évoquera l'auteur écossaise Kirsten Innes et son Scottish Jukebox. Ça, c'est dans l'entretien qu'on a enregistré hier pour des raisons pratiques, puisque Alain Sardaillan, qui est président des Cafés littéraires et qui est donc l'invité invité de cet entretien, eh bien, il est sur le feu avec ce festival qui commence dès aujourd'hui et qui se poursuit jusqu'à dimanche à Montélimar, Le Taillis, Vivier, Pierre Latte. On l'écoute.
Nous sommes avec Alain Sardaillon, président des Cafés littéraires, qui vient nous présenter justement cette 28e édition des Cafés littéraires qui aura lieu du 11 au 15 octobre à Montélimar, Le Taillis, Vivier, Pierre Latte. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors très très riche édition là, sur 4 jours. Vous invitez plus de 26 auteurs pour une centaine d'événements. Comment faites-vous cette chose incroyable?
Alors en effet, c'est un travail de toute une année avec nos adhérents bénévoles. C'est-à-dire qu'à la base, il y a des lecteurs, ce qu'on appelle les lecteurs associés. Nous sommes une cinquantaine de lecteurs et nous recevons à environ 150 à 200 livres chaque année, de livres publiés de septembre à mai, en fait, c'est de la littérature contemporaine. Et ces lecteurs, eh ben, lisent les livres, en parlent, donnent leur coup de cœur, écrivent sur un forum pour dire s'ils ont aimé et pourquoi ils ont aimé, et ensuite répondre à la question « Voulez-vous qu'on invite l'auteur ?» Oui, non ou pourquoi pas. Et donc tous ces avis remontent jusqu'à un comité de lecture où il y a une douzaine de personnes qui sont vraiment le cœur des cafés littéraires. Et c'est là où ce comité de lecture coordonne les avis, essaye de faire une programmation d'après les avis de ces lecteurs de base, lecteurs associés, et envoie des invitations. Et voilà, une fois qu'on a ces invitations, où la plupart des, comme les cafés littéraires, c'est la 28e édition, on a une bonne réputation, les auteurs viennent nous rencontrer et nous, on est heureux de les recevoir.
Alors ces comités de lecture, il y a des comités ados et adultes, c'est ça qui est intéressant aussi.
Voilà. Alors on travaille en effet avec d'abord des cartes blanches, c'est-à-dire qu'il y a, vous savez, dans cette foisonnement de sélection, il y a des polars, il y a des science-fiction, il y a de la poésie, il y a du théâtre, il y a des BD, il y a la littérature jeunesse. Donc il y a des personnes qui sont chargées en fait de nous présenter quelques livres dans ces cartes blanches. Et ensuite, il y a aussi la collaboration étroite avec les comités d'ados. Nous avons depuis plusieurs années formé des comités ados grâce aux animateurs de CDI, c'est-à-dire animateurs de bibliothèque dans les collèges et dans les lycées, et qui ont des relais des enseignants. Et nous, ces comités ados aussi lisent des livres et nous font remonter les livres qu'ils ont sélectionnés. Et nous, les adultes, nous les rencontrons aussi régulièrement pour que cette littérature jeunesse soit présente dans la sélection des cafés littéraires. Donc c'est une étroite collaboration entre les plus jeunes et les moins jeunes, et ça fonctionne, et il y a même un prix depuis l'an dernier et cette année encore qui s'appelle le prix C'est Super, où on récompense un livre qui a été vraiment le coup de cœur des grands et des plus petits, et des ados et des adultes.
Un prix au nom sans ambiguïté.
Voilà, c'est super. Pourquoi ? Parce que Odile, qui est une présidente qui a marqué les cafés littéraires, malheureusement qui a disparu l'année dernière, elle a laissé des écrits en disant que j'aimerais doter un prix. Donc les cafés littéraires, c'est vraiment quelque chose de particulier, puisque c'est les lecteurs qui mettent en avant leur coup de cœur, et ce prix, c'est super, est doté de 2000 euros, donc qui revient à vraiment le roman qui a le plus plu aux adolescents et aux adultes. Ça a été difficile parce qu'il y avait toujours de très bons romans, mais là, voilà, cette année...
Et donc, parmi les 26 sélectionnés, c'est ça ? Parmi les 26 auteurs qui seront présents,
Parlez-nous un petit peu, puisque on l'a dit, hein, vous l'avez dit, il y a une pluralité de, d'approches et une pluralité de types de livres. Hein, vous en avez parlé, il y a de la poésie, il y a des sciences humaines également avec la philosophie, de l'histoire. Il y a des essais, du théâtre, de la science-fiction, du polar. Enfin, c'est très très riche, très varié. Ça donne d'ailleurs, j'ai l'impression, qu'on pourrait ouvrir le programme et voir ce que, d'une manière un peu ethnologique, logique, ce que raconte notre société en regardant le programme d'un coup d'œil.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous avez raison d'insister sur cette pluralité, puisqu'on a des rencontres traditionnelles entre un médiateur et bien sûr l'auteur, mais il y a aussi des rencontres croisées, c'est-à-dire qu'on met deux auteurs qui ont quelquefois des points communs dans leurs univers d'écriture et un médiateur. Mais il y a aussi des expositions, il y a aussi des masterclass, il y a aussi des projections, il y a bien sûr la journée professionnelle aussi réservée aux médiateurs du livre. Et dans les rencontres croisées, il y a rencontre et musique, il y a rencontre et dessin, rencontre et théâtre, rencontre et cinéma. Donc il y a vraiment une grande pluralité. Et pour vous répondre à vos questions, on s'est aperçu cette année dans notre programmation qu'il y avait d'abord beaucoup de premiers romans, notamment de jeunes autrices qui sont vraiment très, très talentueuses, et aussi des romans qui nous font voyager, c'est-à-dire qu'il y a des romans qui se passent en Argentine, ou écrits par une Argentine, des romans qui se passent au Chili, d'autres au Canada, d'autres originaires de Russie, et on a aussi la joie d'accueillir aussi une Écossaise, Kristen Innes, qui voit son roman « La reine d'un jour » traduit en français. Donc c'est la première fois qu'un de ses romans est traduit en français. C'est « Reine d'un jour » de Christine Innes, qui est vraiment un roman où il y a d'ailleurs, nous aurons ce qu'on appelle un « Scottish jukebox », c'est-à-dire c'est Christine Innes nous propose, avec la complicité d'une équipe de musique de la médiathèque, un voyage musical, vraiment où c'est sûr qu'il y aura beaucoup, beaucoup de musique et aussi beaucoup d'enthousiasme, parce que Christine Innes est quelqu'un qu'on a senti qui était très enthousiaste et très heureuse de venir à Montélimar.
Ouais, dites-nous un mot sur son livre, effectivement, qui est une vraie plongée à travers une chanteuse folk des années 60, qui peut-être existe, peut-être pas. En tout cas, c'est une véritable plongée à travers l'Angleterre. C'est ça, c'est un voyage complètement déjanté, rock, pop, folk.
Voilà, alors ça commence par l'histoire de Chloé Campbell, qui est une chanteuse qui a eu du succès, un seul succès, mais qui a marché de façon internationale, et qui, au départ, on apprend qu'elle a 51 ans, qu'elle vient de se suicider. Alors c'est un peu plombant, mais ensuite on voit les 40 dernières années de sa vie où elle nous décrit, c'est le prétexte de suivre cette chanteuse à travers le monde de la musique en Grande-Bretagne, de Margaret Thatcher jusqu'au Brexit. Donc c'est une plongée dans la Grande-Bretagne musicale, mais aussi sociétale, mais aussi politique. Et on pénètre dans ce milieu à travers Clio Campbell. Quand je l'ai lu, j'étais persuadé que Clio Campbell existait. C'était tellement... Mais en fait, c'est une création...
Et vous êtes allé sur votre moteur de recherche pour faire des recherches approfondies.
Voilà. Mais c'est donc un angle d'écriture assez intéressant qui nous décrit cette société de la Grande-Bretagne, notamment l'Angleterre et l'Écosse.
Et alors, il y a d'autres... Années. Pardon, je vous presse un peu, le temps nous est compté. Et il y a tellement de choses, d'événements intéressants qui croisent, comme vous l'avez dit. Hein, il y a des performances dessinées musicales à base de bananes, si je n'abuse, avec le Tao la banane ou l'élégance burlesque. Il y a aussi des lectures dessinées entre Pauline Desmures, qui fait une lecture musicale, et Rémi Courjon, qui est dessinateur, hein, sur oui. Ma théorie sur les pères et les cosmonautes. Voici oui. Un livre qui a été très apprécié, notamment par les adolescents. Oui. Il y a de la poésie sonore et de la poésie contemporaine avec Amandine André et Sébastien Lespinasse qui revient,
était déjà venu il y a quelques années, une personne charmante.
Il y a aussi... dites-nous un mot pour terminer de ce projet de Fanny Saint-Tenoy.
Alors, Fanny Saint-Aunois, on travaille aussi avec la Fondation La Poste, et c'est notre roman épistolaire, en fait, de l'année. Fanny Saint-Aunois a écrit un roman qui est une dystopie, c'est-à-dire ce sont une suite de lettres entre une jeune femme, Petra, qui est dans un camp de rééducation, puisqu'elle est athée, et donc ça se passe en 2030 et quelques, et donc elle est dans ce camp de rééducation, puisque dans la société règne l'intégrisme catholique. Donc elle a aperçu de l'autre côté des barbelés une partie du camp où elle a aperçu un homme qui fait partie, qui est aussi en prison, qui est homosexuel, et elle lui envoie des lettres, et elle a une constance qui est une sœur qui doit la garder, qui progressivement devient la complice de Petra pour faire passer les lettres à ce garçon qui est dans un autre camp de rééducation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a créé toute une animation autour des lettres, c'est-à-dire qu'on a mis un isoloir où on sera capable d'écrire quelques lettres pour écrire justement d'abord à l'auteur, à Fanny Saint-Aunois, et aussi écrire, pourquoi pas, à des prisonniers. Donc voilà, autour d'un roman où on aura l'occasion de rencontrer l'auteur, on a créé aussi un événement d'écriture et d'envoi de lettres.
Eh bien donc, tout ça, ça aura lieu du 11 au 15 octobre, les cafés littéraires à Montélimar, Le Taillevivier, Pierre Latte. On l'aura compris, hein, c'est un événement extraordinaire, mais qui n'a pu émerger que par ce travail de lecture, par ces passionnés, ces bénévoles, ces comités de lecture, adolescents aussi, et on le souligne puisqu'on parle souvent en le regrettant de la disparition de la lecture chez les jeunes, mais en tout cas là, ils sont bien là et ils disent ce qu'ils ont envie de lire et ils font leur propre choix, et apparemment, c'est ce que vous me disiez hors antenne, ils savent ce qu'ils veulent. Merci beaucoup Alain Sardaillon pour nous avoir donné l'eau à la bouche. Et donc on vous retrouve dès aujourd'hui au Café littéraire.
En Drôme et en Ardèche.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Il y a trop de choses à faire quand on ne sait plus quoi faire. Lire, aller voir des films, parler, discuter, échanger... Que faire? Peut-être être aussi à l'écoute de Fréquence 7 puisque les programmes continuent. Oui, ils continuent. J'y vais puisque je les ai sous les yeux pour une fois. Donc les programmes continuent avec le Telex. C'est vous qui dites ce que vous avez envie de dire là, mais vous pouvez aussi nous laisser des messages d'amour ou laisser des messages d'amour au monde ou à qui veut d'ailleurs. Au 04 75 93 30 25 à 17h, c'est la rediff de cette émission si vous n'avez pas entendu en entier. Ou même pour le plaisir de la réécouter une deuxième fois, qui sait. À 18h, c'est la collective qui vient nous parler de quoi, Quentin ?
Eh bien, elles viennent parler de la considération des femmes dans le travail, en politique, de nos jours. Voilà, c'est une émission riche, 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 riche. Il y a de la musique, elles sont trois en studio, c'est fascinant à découvrir.
À 18h, donc, ce soir, et à 19h, c'est éclectrique. Puis à 20h, c'est pas fini, c'est la playlist de mon pote. Super programme sur Fréquence 7.
Ouais, là c'est Valou qui nous emmène pour une heure de musique à la découverte de la playlist de un ou une de ses amis qu'elle rencontre exprès pour partager leur passion avec vous.
Et nous, on se retrouve lundi pour une prochaine Onde Curieuse ou demain pour le Cinémascope à 12h10. Merci beaucoup Quentin.
Merci Sophie.
Et à très vite.